Voilà, alors quand j'ai commencé à travailler sur la poésie, en fait, il y avait un panorama qui était assez spécifique, puisque pour les gens qui travaillent sur les textes littéraires, ça faisait déjà un moment qu'il y avait un travail sur les narrateurs en poésie, dans la fiction, hein, donc les narrateurs dans les romans. C'était un domaine qui était déjà bien balisé. Donc, je parle à ce moment-là des années 90. Bon, ça faisait déjà un moment qu'il y avait tous les travaux de narratologie qui étaient en quelque sorte rentrés un peu dans la vulgate des études romanesques. Et en revanche, pour ce qui concerne la poésie, on était encore dans ces années-là vraiment dans le paradigme structuraliste. Hein. Donc les linguistes se sont toujours intéressés à la poésie. Hein. C'est vrai que Jacobson disait qu'on ne peut pas être un bon linguiste si on n'est pas un bon poéticien, et inversement, qu'on ne peut pas être un bon poéticien si on n'est pas un bon linguiste. Donc j'aime beaucoup cette phrase de Jacobson, que je trouve très vraie. Mais donc Jacobson avait développé, en particulier avec sa célèbre analyse des chats de Baudelaire avec Lévi-Strauss, hein, une analyse qui était tout à fait immanente au texte. Hein. Donc on restait à l'intérieur du texte, on analysait en particulier tous les parallélismes au niveau du signifiant, hein, qui sont évidemment très importants en poésie, hein, je ne le nie pas. Donc on avait une vision structurale et qui restait à l'intérieur du texte. Et les choses n'avaient pas tellement bougé depuis cette analyse des chats de Baudelaire, du moins en ce qui concerne l'approche linguistique de la poésie. Hein. Bon, alors du point de vue littéraire, il y avait un renouveau d'intérêt pour les catégories du lyrisme, mais qui était défini de façon assez floue, hein, enfin, à mon avis. Mais donc peu de travaux vraiment sur ce que pouvait être l'énonciation en poésie. Or, il me semblait que c'était vraiment un aspect important de la poésie, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. C'est que, bien sûr, hein, par exemple, les travaux de Nicolas Ruvet sur la poésie, à mon avis, sont toujours très intéressants, mais là, il y a aussi la question des figures, hein, qui est importante en poésie, mais je pense que l'approche énonciative, sans être exclusive, est aussi très, très importante. Et donc, mon objectif, ça a été un peu de voir ce que les études en linguistique énonciative pouvaient apporter à l'analyse de la poésie. Et c'est donc un peu une espèce de parcours que je vais vous proposer aujourd'hui dans ce sens-là. Voilà. Alors, comme vous le voyez sur l'exemplier, je vais d'abord je vais définir d'abord les instances de la poésie. Comme dans d'autres domaines, je crois que la première distinction à poser, c'est celle de l'auteur et du locuteur. Donc le locuteur, c'est celui qui est responsable des marques de première personne, s'il y en a. C'est celui qui est responsable des modalités aussi. Donc ce locuteur, quand on a affaire à une énonciation seconde, comme c'est le cas de l'énonciation littéraire, hein, qui est un genre second, si on reprend les termes de Bakhtine, hein, donc ce locuteur, c'est un être de discours, c'est un être qui est construit par le discours, et il est à distinguer de l'auteur en tant que sujet biographique. Hein. Alors, d'autre part, quand on parle d'auteur, je pense qu'on peut en fait distinguer aussi entre le sujet biographique et puis cette espèce d'instance sociale qui est construite par la circulation des textes littéraires. Hein. Donc quand je parle d'auteur, c'est pas celui qui est né ou celle qui est née à tel endroit et puis qui a telle vie dans tel lieu, mais l'auteur, c'est une instance donc qui est construite par la circulation des textes littéraires. Hein, et par leur réception dans des cercles qui sont plus ou moins larges. Je m'appuie sur les travaux sur l'auteur qui ont pu être menés par Menguenot, par Mézos sur les postures d'auteur, etc. Hein. De ce point de vue, on peut d'ailleurs considérer que pour ce qui est de la poésie contemporaine, qui est mon domaine de prédilection, il y a très peu de poètes contemporains qui en réalité accèdent à ce statut d'auteur, parce que ce statut d'auteur, il est vraiment conditionné par un certain fonctionnement des sphères culturelles et médiatiques, et au moins pour ce qui concerne la France, la poésie est à peu près en dehors de ces cercles, et donc je dirais que, au sens que Menguenau précisément donne à ce terme et que vous pouvez retrouver sur la revue en ligne du centre de recherche Hadar, hein, de rue Tamoussi à Tel Aviv, dans ce sens précis-là, je dirais qu'il y a très peu de poètes actuellement qui soient des auteurs, enfin du moins des poètes vivants. Par contre, il y a beaucoup de poètes morts qui sont des auteurs. Et par exemple, Rimbaud, c'est un bon exemple d'auteur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui en tant que figure littéraire, bon, est vraiment un auteur. Et ce qui se passe généralement, enfin dans une approche un peu naïve, c'est que cette image d'auteur va se plaquer sur notre connaissance des textes. Et en fait, elle va empêcher très souvent de voir quel est vraiment le locuteur du poème. Hein. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur la distinction entre l'auteur et le locuteur, parce que cette image d'auteur, c'est en général, enfin très souvent, un écran qui empêche de lire vraiment ce qui est dit. Parce qu'on va, par exemple, plaquer l'image du poète maudit, du vagabond semelle de vent, pour prendre l'exemple de Rimbaud, sur ce qui est vraiment écrit dans les illuminations, par exemple. Hein. Voilà. Donc, moi, je vais m'intéresser au locuteur. Hein, l'auteur est important à étudier, mais plutôt dans une approche de sociologie littéraire, hein, pas quand on s'intéresse vraiment au texte. Hein. Voilà. Alors, ceci dit, ce locuteur, il est... Ce locuteur, en même temps, c'est une construction progressive au fil du texte. Hein. C'est-à-dire que, bon, ça, c'est quelque chose qui est bien étudié en linguistique de façon générale. On a ce qu'on peut appeler une situation de communication qui est extérieure au discours, hein, qui est déterminée par des conditions sociales, historiques. Bon. Et puis, on a ensuite ce qu'on peut appeler une situation ou une scène d'énonciation, ça c'est le terme qu'utilise Menguenau et que je reprends, une scène d'énonciation qui, elle, est construite par le discours. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est justement de quelle façon, quelles sont les relations qui s'instaurent entre la situation de communication, qui est en partie non linguistique, même si les discours contribuent à la façonner, et puis la situation d'énonciation, c'est-à-dire ce que l'on peut observer dans le discours lui-même. Hein. Le discours ayant d'ailleurs parfois pour objectif avoué, par exemple dans le discours politique, de transformer la situation de communication. Si la situation de communication est défavorable au locuteur dans le discours politique, eh bien, son discours va avoir comme objectif de la transformer. Donc, ce qui va m'intéresser, évidemment, c'est de voir comment le locuteur est construit par le texte et comment, au fur et à mesure du texte, d'ailleurs, il peut évoluer. Et donc, je reprends tout à fait les catégories de Menguenau, hein, concernant ce qu'il appelle la scène d'énonciation. Hein, et donc, et ensuite, les scénographies. Donc, si on a affaire à un poème, quand on commence à lire un poème, bon... Si je reprends la terminologie de Menguenau, bon, on est dans du discours littéraire. Et par ailleurs, il y a un genre qui prédétermine les attentes. Hein. Donc si vous commencez à lire un sonnet, ce n'est pas la même chose que si vous commencez à lire une épopée, ou une satire, ou une épître. Et à l'intérieur des sonnets, ce n'est pas la même chose de lire les regrets du Bellé, ou de lire, je ne sais pas, les 101 sonnets d'amour de Neruda. Bon, voilà. Donc vous avez une attente initiale qui vous fait attendre une certaine scénographie. Hein. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir si par rapport à cette attente initiale, ben, ce qui se passe vraiment dans le texte, est-ce que la scénographie déroule, disons, quelque chose d'assez attendu ou pas. Hein? Et donc, ce que je vais faire, là, sur les exemples que je vous ai proposés, c'est de voir quelle est la scénographie construite par le texte. Alors, à certains égards, on peut dire que même poème offre une situation, enfin, me semble offrir une situation qui serait comparable, donc je rentre un peu dans le détail des scénographies maintenant, qui serait comparable à l'autobiographie pour ce qui est du narratif. Hein. Alors, depuis Philippe le Jeune, on sait bien que l'autobiographie se caractérise par donc une identification des trois instances de l'auteur, hein, du narrateur et du personnage, que dans ces cas-là, les trois coïncide, même s'il y a des décalages intéressants, évidemment, entre les trois. Hein. Donc, on pensera, par exemple, que le locuteur, le jeu du lac de Lamartine, c'est à la fois l'auteur Lamartine, le poète écrivant le lac, et puis l'amoureux romantique qui est mis en scène par le texte. Mais, en fait, ce faisant, ce qu'on occulte, c'est une caractéristique essentielle de la poésie, qui est la décontextualisation. Je crois que plus que d'autres discours, alors cette décontextualisation, elle est inhérente déjà à l'écrit en général, hein, mais je dirais qu'elle est peut-être poussée plus loin en poésie que dans d'autres genres écrits. Les travaux qu'on a pu mener en génétique, en particulier des textes poétiques, montrent que très souvent, il y a vraiment tout un travail qui est fait pour tendre à une certaine universalité du discours poétique, hein, et donc pour l'arracher à la circonstance. Hein. Voilà. Le jeu poétique, ça a été souvent dit, en particulier par des travaux littéraires aussi, hein, par exemple dans le recueil collectif Figure du sujet lyrique, hein, qui avait été dirigé par Rabaté. Le jeu poétique prétend souvent parler au nom d'une expérience universelle. Hein, et donc, il y a un effacement des traits individuels dans la poésie. Hein. Si on pense par exemple à la poésie épique, on constate que le jeu de la Aide, hein, est très souvent, enfin, est dépourvu, enfin pas très souvent, mais il est dépourvu de tout trait biographique et il incorpore en fait une mémoire qui est transmise par les générations. Hein, voilà. Dans la poésie contemporaine, mais pas seulement, on remarque en particulier un emploi très très répandu du nous et du on. Hein. Il y a même des poètes contemporains qui écrivent quasi exclusivement avec le on et qui évitent le jeu comme la peste, et donc qui situent bien aussi leur énonciation dans une généralisation. Hein. On peut penser aussi au genre formulaire, hein, qui est quand même un des aspects d'écriture poétique, hein, la formule, le genre aphoristique, hein, qui se caractérise par un effacement des marques subjectives. Donc, tout ça pour dire que quand on a du jeu en poésie, et bon, c'est le cas dans les sous-genres lyriques, bon, c'est un jeu qui est beaucoup plus universel qu'on pourrait le penser au premier abord. Pour en terminer sur ces généralités aussi, ce qui est important, c'est également de prendre en compte le discours rapporté en poésie. Je crois qu'on n'a pas assez souvent envisagé la poésie sous l'angle des discours rapportés. Or, en fait, il n'y a aucun obstacle à ce que le poème soit le lieu d'un dialogue entre plusieurs locuteurs. Et donc, je pense que beaucoup de travaux sur le discours rapporté peuvent profiter utilement à l'analyse de la poésie. On peut penser par exemple au premier des petits poèmes en prose de Baudelaire, hein, L'étranger, ben, qu'est-ce sinon un dialogue, hein, bon. Et puis les poèmes d'Apollinaire, par exemple, sont pleins de marques de discours apportés. Bon, j'ai travaillé récemment sur plusieurs poètes de ce qu'on appelle l'esprit nouveau, donc Apollinaire, mais aussi Salmon, enfin d'autres. Bon. On a une hétérogénéité énonciative, un collage de voix, une polyphonie qui n'a vraiment rien à envier au romanesque. Hein. Donc ça m'a renforcé dans ma conviction que l'approche énonciative a quelque chose à nous apprendre sur la poésie. Voilà. Donc ben, une approche énonciative de la poésie, qu'est-ce que c'est? Ça va être donc d'étudier ces rapports entre les différents locuteurs, quand il y en a plusieurs, hein, leurs évolutions au fil du poème, et évidemment mettre cela en relation avec la visée argumentative globale du texte, hein, puisque je pars d'un principe qu'on peut discuter, mais qui est que tout discours a une visée argumentative. Tout discours n'est pas argumentatif au sens étroit du terme, mais il a une visée argumentative et sa scénographie est en rapport avec cette visée. Voilà. Alors, aujourd'hui, bon, pour les besoins de la chose, on va travailler sur des extraits, mais je vais insister aussi sur le fait que cette énonciation en poésie, on ne peut l'étudier, à mon avis, valablement que dans l'ensemble d'un livre. Je crois que personne n'aurait l'idée d'étudier le narrateur d'un seul chapitre de roman, et ça viendrait à l'idée de personne, mais en revanche, il y a beaucoup de gens qui n'hésitent pas à étudier un poème au sein d'un livre en pensant qu'ils ont fait un travail qui a une certaine cohérence. Bon. Malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'unité pertinente pour étudier la poésie, c'est comme pour le roman, c'est le livre entier. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir justement l'évolution de la scène d'énonciation du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que si on pense que le discours modifie la situation de communication, en littérature, c'est la même chose. C'est-à-dire que le discours, petit à petit, fait évoluer la situation d'énonciation qui a été posée au départ. Enfin, c'est souvent un des enjeux. Hein. Et puis, on a souvent aussi des recueils de poèmes qui sont bâtis sur des contrastes. Hein. J'ai travaillé par exemple sur Sol absolu de Laurent Gaspard. Bon, dans le Sol absolu de Laurent Gaspard, vous avez des textes qui sont volontairement très, très impersonnels, qu'on pourrait presque prendre pour des extraits de livres de géographie. Et puis, vous avez à côté des textes très, très personnels. Et la vérité, je dirais, si on peut parler de ce mot-là, mais enfin, la vérité du texte, elle est dans la conjonction de ces deux dispositifs énonciatifs. Donc, si on étudie qu'un seul des deux, on passe à côté, évidemment, de la logique du texte. Alors, ceci étant dit, pour les besoins de la chose, on va pouvoir travailler sur tout vent ou sur tout le livre en aura vécu. Hein, donc, vous serez obligé de me croire un peu sur parole. Voilà. Alors, mais enfin, j'ai choisi un extrait qui donne un petit aperçu de Vent de Saint-Jean-de-Perse. Alors, j'ai pris deux extraits très différents de Vent. C'est un petit peu peut-être ce qu'on peut faire de plus compliqué en termes d'énonciation. Hein. Très compliqué. Pourquoi ? Ben, d'abord, il y a une multiplicité de locuteurs. Hein. Il y a un narrateur avec une majuscule. Vous voyez, là, c'est le début, là, le premier verset. Là. Il y a le poète avec une majuscule aussi. Bon, on sait que Saint-Jean-de-Perse aime bien les majuscules. Le maître du chant, le vent. Hein. Donc voilà, autant de locuteurs, puis il y en a encore d'autres. Hein. Il y a aussi beaucoup de discours rapportés. Et souvent non attribué, donc pas de discours attributif pour préciser qui parle. Hein. Le jeu est assez peu fréquent et inclus dans un nous la plupart du temps, mais un nous qui est peu précis lui aussi. Hein. Et puis il y a beaucoup d'interpellations, beaucoup d'apostrophes. C'est ça qui m'avait intéressé d'ailleurs quand j'ai travaillé sur Vent, c'était l'abondance des apostrophes. Voilà. Le discours rapporté commence souvent par des apostrophes, on le voit ici, hein, vous voyez, donc ouverture des guillemets, ô vous que rafraîchit l'orage, voilà, hein, c'est le début de la section 2 du chant, hein, voilà. Donc les apostrophes sont très nombreuses. Alors, ce que l'on observe quand on regarde l'ensemble de Vent, c'est qu'en fait, ces incertitudes énonciatives, qui sont très grandes au début, vont se résoudre petit à petit. Donc ça, c'est un des aspects de la dynamique du poème, c'est que ces locuteurs assez peu précis, petit à petit, acquièrent une identité. Hein. Donc, une des finalités de l'écriture, c'est justement de préciser l'identité de ces instances. Et en particulier, le poète, enfin, celui qui se dénomme comme tel, va acquérir petit à petit un certain nombre de traits, et le « vous » aussi, celui à qui il s'adresse. Hein. Donc quand on commence, là, le premier « vous » hein, du texte, qui est au début de la section 2, ben, on ne sait pas du tout qui c'est. Hein, « Au vous que rafraîchit l'orage ». Et puis progressivement, il va se définir, et donc dans le chant 4, il va arriver à une définition beaucoup plus explicite. Voilà. Donc, de ces observations et d'autres que je suis obligée de passer sous silence, on peut dire que Vent, c'est le dire autant que le dit qui met en lumière hein, la complexité de la parole poétique. Et qui, en fait, retrace un petit peu l'accession. Je dirais que c'est un peu un livre sur l'accession à la parole poétique. Hein. Mais cette accession ne pourra se faire, pour le poète, qu'en s'ouvrant un souffle impersonnel et en dépassant les limites de l'individu. C'est en particulier tout l'enjeu du chant 4. Hein. Et donc... mais avec beaucoup d'allers-retours, de fluctuations. Et donc la comparaison entre les chants 1 et 4 indique qu'un des enjeux du livre, c'est bien l'avènement de cette parole poétique, mais que ça ne va nullement de soi. Et qu'au départ, elle dépend d'injonctions, de puissances anonymes. Hein. Donc on voit bien que Saint-Jean-de-Perse s'inscrit évidemment dans une filiation où c'est la muse qui fait parler le poète, qui le pousse à parler, hein, qui l'incite à parler. Et qui du coup lui permet de prendre la parole, mais c'est dit au début, mais ça va nécessiter finalement 4 chants pour pouvoir se réaliser. Voilà. Donc il va falloir toute une trajectoire pour que cela devienne possible. Et donc les dispositifs énonciatifs qui sont très complexes et souvent opaques. Ont pour fonction de montrer la dissociation initiale entre l'aspirant poète, hein, donc au début on peut parler d'un aspirant poète, et les forces inspiratrices, les vents, la terre, le désir, la fraîcheur, qui vont petit à petit le doter d'une autorité cosmique qu'il lui faudra acquérir. Donc on peut aussi faire une lecture sémiotique et grémassienne de vent sous cet angle. Hein. Alors, regardons le champ 1, section 2. Donc, dans ce champ 1, qui est massivement énoncé par un « nous », le « je » n'apparaît que par intermittence. Ces paroles occupent une portion congrue et dans du discours rapporté. Hein. Donc, en fait, on ne sait pas bien à qui appartient le discours premier, mais pas au poète. Et donc, la parole est médiatisée, elle est théâtralisée, et elle n'atteint le lecteur qu'à travers des mises en scène où le poète est tenu à distance par un nous. Hein. Donc, vous voyez, ô vous que rafraîchit l'orage, fraîcheur et gage de fraîcheur. Alors, qui dit cela? Probablement le narrateur, puisque juste après, on nous dit, le narrateur monte au rempart, et le vent avec lui, comme un chaman sous ses bracelets de fer. Alors, je passe sur la description du narrateur. Et ensuite, mais sa parole est au vivant, ses mains au vasque du futur, et sa parole nous est plus fraîche que l'eau neuve, fraîcheur et gage de fraîcheur, sans guillemets. Et puis, à nouveau les guillemets, ô vous que rafraîchit l'orage. Donc, vous voyez qui parle ici, un narrateur qui n'est pas le poète, hein, qui n'est pas la première personne, qui est décrit comme un chaman. Hein. Et le narrateur monte au rempart dans la fraîcheur des ruines et gravats, la face peinte pour l'amour comme au fait du vin, et vous avez si peu de temps pour naître à cet instant. Et la première personne du singulier arrive plus tard, hein, donc jadis l'esprit du dieu se reflétait dans les foies d'aigles entrouverts, et de tels rites furent favorables, j'en userai. Voilà, donc première apparition de ce locuteur, j'en userai, faveur du Dieu sur mon poème, qu'on peut interpréter comme un souhait, et qu'elle ne vienne à lui manquer. Favoriser du songe favorable fut l'expression choisie pour exalter la condition du sage, et le poète encore trouve recours dans son poème. Alors vous voyez, apparition fugitive d'un jeu, tout de suite après, à nouveau une troisième personne, le poète encore trouve recours dans son poème, et la section se termine par un autre discours apporté, « Parler en maître, dit l'écoutant », qui semble être un conseil donc à cet apprenti poète. Et en fait, ce qui nous est dit au début hein, de ce livre, c'est que, bon, on a, enfin, j'interprète comme le fait qu'on est un apprenti poète, comme le marque le futur, qui se donne un projet, j'userai de ces rites, hein, de ces rites propitiatoires, hein, j'appellerai la faveur du Dieu sur mon poème. Ce poète, il est encore bien incapable de parler en son nom propre. Hein, à ce moment-là, ça lui est tout à fait impossible. Or, quand on regarde la fin du livre, donc section 6, c'est l'avant-dernière, il y a quelques vers après dans la section 7. Qu'est-ce qu'on constate? Alors déjà, visuellement, vous voyez, il n'y a plus de guillemets. Hein, il y a une disparition des discours rapportés. C'est-à-dire, il y a une simplification de l'énonciation. On a quelqu'un qui parle, mais qui nous parle directement, qui n'a pas besoin de faire parler d'autres personnes. Il n'y a plus de narrateur, il n'y a plus de chaman, il n'y a plus de... Voilà, il y a quelqu'un qui s'adresse à nous. Et donc, le « ô vous que rafraîchit l'orage », qui était, entre guillemets, au début, et qui était une énonciation rapportée, devient une énonciation direct. Hein. « Ô vous que rafraîchit l'orage, la force vive et l'idée neuve rafraîchiront votre couche de vivant. L'odeur fétide du malheur n'infectera plus le linge de vos femmes. » Et vous pouvez remettre au feu les grandes lames couleur de foie sous l'huile. Nous en ferons faire de la bourre. Nous connaîtrons encore la terre ouverte pour l'amour. Et puis ensuite, une invocation à la douceur. Chante douceur à la dernière palpitation du soir et de la brise. Et à la fin, des premières personnes du singulier. Une race nouvelle parmi les hommes de ma race. Une race nouvelle parmi les filles de ma race. Et mon cri de vivant sur la chaussée des hommes, de proche en proche et d'homme en homme, jusqu'aux rives lointaines où déserte la mort. Donc, que se passe-t-il en fait dans ce champ 4? Eh bien, la section 3 joue un rôle de pivot. Il y a une épreuve initiatique dans cette section 3, une rencontre avec une figure qui est un peu une figure diabolique, qui s'appelle le balafré. Hein. Et avant la section 3, on a un moment narcissique avec une pléthore de jeux et de traits biographiques. Hein. Et puis, ensuite, après cette section, eh bien, on a comme ici un jeu qui est en interrelation avec des hommes auxquels il s'adresse et aussi qui endosse une parole collective en nous et aussi dans une suppression totale des marques de discours apportées. C'est pour ça que, à mon sens, vent peut très bien se lire comme l'avènement d'une parole propre, mais une parole propre qui est aussi en même temps porte-parole d'un collectif, d'une collectivité. Et donc, l'évolution correspond à une incorporation de toutes ces forces tutélaires qui avaient été invoquées auparavant, donc le vent, les souffles, etc., et qui a permis au poète d'accéder à une parole propre, mais en même temps investie d'une force collective. Voilà, alors ça c'est un exemple. Alors évidemment, je suis obligée de résumer beaucoup, si ça vous intéresse, il y a un article que vous pouvez trouver en ligne, donc c'est facile, vous pourrez voir le détail de la démonstration. Mais je pense qu'on a tout intérêt à vraiment s'intéresser aux locuteurs, aux énonciateurs dans les poèmes, parce que c'est souvent l'enjeu de la poésie, c'est de dire à quelles conditions telle ou telle parole peut émerger et peut devenir possible. Alors, un autre exemple aussi pour montrer, un tout petit exemple, beaucoup plus rapide, pour montrer donc l'importance aussi des discours rapportés en poésie et le parti qu'on peut en tirer. Alors, dans un dispositif qui est beaucoup plus simple, une scénographie assez classique, un recueil qui a une forte composante, on pourrait dire, autobiographique. Donc, un locuteur premier qu'on peut considérer à certains égards, mais en tenant compte de la décontextualisation dont je parlais, comme renvoyant à la personne de l'auteur. Mais ça n'empêche pas qu'on a du discours rapporté. Alors si vous regardez ce poème qui s'intitule, s'intitule Le pain, ne pose pas les jouets à côté du pain. Parfois le pain disparaissait, son aventure s'achevait, parce que l'enfant ne jouait plus. Mange une main et garde l'autre pour demain. J'entends encore le soupir qui rend adulte en un soupir. Le pain est à redécouvrir, disait ma mère. La bouche est ronde, il reviendra. Une croûte nouvelle, et c'était l'Amérique. Alors ici, il y a bien sûr le locuteur, le jeu, mais on a aussi ce discours rapporté de la mère en italique. Et donc l'hommage qui est rendu dans ce livre, on aura vécu aux parents, d'autres poèmes sont centrés sur le père, passe par l'intégration de leurs paroles au poème. Et une intégration évidemment qui est marquée par le discours rapporté en italique, mais qui va au-delà aussi. C'est-à-dire que la frugalité, je dirais, du poème est aussi un mimétisme de cette parole simple et aussi qui se coulait dans les proverbes et dans les expressions un peu stéréotypées qui était la parole des parents. Voilà, alors ceci m'amène à le deuxième aspect que je voudrais développer. Je m'aperçois que je me suis trompée dans le... deux exemples, des instances de la poésie, de l'auteur, du locuteur, discours rapporté, donc vent de Saint-Jean-Perse et en aura vécu. Et puis j'en viens à présent aux points de vue, qui sont en fait mon point 3, la question des points de vue en poésie. Alors là, j'en viens à une autre distinction au niveau des instances de l'énonciation, qui est une distinction donc, que l'on doit à Oswald Ducrot, qui est la distinction entre les locuteurs et les énonciateurs. Alors, sans entrer trop dans les détails, les énonciateurs, dans la théorie de Ducrot, alors après ça peut se discuter, il y a différentes manières d'envisager la question des énonciateurs, mais les énonciateurs sont des porteurs de points de vue, mais ils ne sont pas forcément, ils ne prennent pas forcément la parole. On peut plutôt repérer des points de vue dans certains types de marques syntaxiques, comme par exemple la négation, l'interrogation, dans le conditionnel, dans l'emploi de connecteurs argumentatifs. Bon, alors après, selon les théories linguistiques, certains pensent que, en fait, derrière tout point de vue, il y a des locuteurs. Bon, ça fera l'objet de discussions dans un prochain colloque. Voilà. Mais donc, parlons pour l'instant de point de vue, c'est-à-dire d'opinion, on peut dire, qu'on peut rattacher parfois à des locuteurs tout à fait identifiés, le locuteur lui-même, son destinataire, des personnes qui sont citées, mais qu'on peut souvent aussi attribuer à des instances anonymes, l'opinion, la doxa ou une collectivité indéfinie. Alors, cette distinction locuteur-énonciateur, qui est différente de ce qui se passe dans les discours rapportés, parce que les énonciateurs sont quand même subordonnés au locuteur, ils n'ont pas d'autonomie, il n'y a pas vraiment de décrochage énonciatif, il n'y a pas de changement des repères énonciatifs comme dans le discours rapporté. Bon, ces énonciateurs, poser une dualité locuteur-énonciateur permet de rendre compte de phénomènes comme l'ironie, par exemple, où on peut penser qu'il y a citation, il y a mention d'un discours, mais pas véritablement un discours rapporté. Ça permet aussi de rendre compte, on peut analyser comme cela l'interrogation, en pensant que dans l'interrogation, le locuteur présente un point de vue, tout en indiquant, par la forme même de l'énoncé interrogatif, qu'il ne peut pas le valider et qui donc il demande sa validation, il remet sa validation au destinataire. Alors la négation également est analysée, comme une dualité de point de vue, le point de vue affirmatif et le point de vue négatif, le point de vue négatif dominant le point de vue affirmatif. Alors on peut aussi envisager de nombreuses figures de style sous cet angle-là, des énonciateurs, de la diversité des énonciateurs. Alors, cette notion de point de vue et d'énonciateur me paraît tout à fait importante en poésie et je vais essayer de vous le montrer à partir de l'exemple du poème de Pierre Desnoeuds. Autrement dit, ce qui me semble important, c'est bien sûr de repérer, comme on l'a fait tout à l'heure, les locuteurs, de s'intéresser aux discours rapportés, aux interactions, ce que je n'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui, mais ce qui me paraît très important aussi, ce sont les interactions entre le « je », le « nous », le « on », et les différents procès qui sont attachés à ces instances. Mais la question des points de vue est aussi très importante parce que très souvent, elle permet de bien comprendre les poèmes comme des espaces de débat. Donc, le poème est souvent, à mon avis, un débat en partie implicité parce que les sources des points de vue ne sont pas toujours très, très, très explicites, les positions sont très importantes. Alors, dans les textes narratifs, la question des points de vue a été beaucoup étudiée dans le rapport narrateur-personnage. On sait que il y a beaucoup de travaux qui ont porté sur la façon dont le point de vue du narrateur premier et le point de vue s'opposent ou au contraire consonnent ou dissonnent avec le point de vue des personnages, avec des relations complexes de subordination ou de confrontation. Dans les discours politiques ou médiatiques, on étudie beaucoup aussi ce qu'on appelle très souvent le dialogisme, c'est-à-dire la façon dont le locuteur va intégrer des points de vue adverses, va dialoguer avec d'autres voix, va anticiper aussi sur les objections de son auditoire. Et en poésie, ça me paraît aussi très important. Alors je vous propose de regarder ce qui se passe dans ce poème de Pierre Desnoeuds, que je vous lis. Alors, il s'agit de la septième section d'un poème qui s'appelle « Octobre après octobre ». Alors, bien sûr, là aussi, il faudrait pouvoir étudier « Octobre après octobre » en entier. Bon, là, je vais me contenter de la septième partie. « Brouillard », alors, il s'agit d'évoquer les dernières années et la mort du père du locuteur. « Brouillard collant aux vitres, qui empêcha la nuit de s'épaissir entre les spasmes, d'envahir le silence. Creusement des rides, grattement des doigts ne font pas un message, mais la respiration de plus en plus courte, que dit-elle encore, sinon que l'amour demeure inaccompli. Les mains n'auront-elles servi qu'à essuyer le front, les joues à recouvrir le visage mortel, mais dans les paumes qui se plissent, l'espace est revenu laver l'espace, nous réclamer. Alors vous remarquez qu'en ce qui concerne les marques déictiques, le locuteur est peu présent. On n'a pas de jeu, on a un nous uniquement dans le dernier vers. Et pourtant, il y a une très forte confrontation de points de vue dans cette scène, à mon avis. Alors, que constate-t-on? Bon, déjà, on peut aller d'emblée plus évident à la négation. Creusement des rides, grattement des doigts ne font pas un message. Bien, dans la négation, on a une prise de position par rapport à ceux qui penseraient que le creusement des rides et le grattement des doigts valent pour un message. Donc on a ici une dualité de point de vue. hein, ceux qui pensent et qui sont distincts du locuteur, qu'il y a là un message, et puis le locuteur qui, lui, asserte que cela ne fait pas un message. Donc on a une première, un premier indice ici d'un débat entre énonciateurs. Hein. Et puis juste après, on a un mais. Alors un mais, bon, connecteur beaucoup étudié, enfin les premiers travaux sur de Ducrot et puis poursuivi après. Donc mais la respiration de plus en plus courte, que dit-elle? Alors mais indique un renversement argumentatif. Hein, je pense que vous le savez. Donc c'est-à-dire que le locuteur va concéder que certes le creusement des rides et le grattement des doigts ne font pas un message, mais ce qui suit le connecteur mais est plus fort. Et seulement ce qui suit, c'est une interrogation. Mais la respiration, que dit-elle encore, sinon que l'amour demeure, hein, demeure inaccompli. Donc en fait, ici, on a un locuteur qui prend, qui conteste le fait qu'il n'y ait pas, enfin, qui concède qu'il n'y a pas message, mais qui pense en fait que cette respiration, malgré tout, elle est porteuse de quelque chose. Hein. Mais en même temps, il ne va pas jusqu'à l'asserter. Il laisse le choix au destinataire de se prononcer, puisqu'il lui pose la question, et donc il pose la question au lecteur. La respiration, que dit-elle encore, sinon que l'amour demeure inaccompli? En plus, ce qu'il lui propose, c'est un oxymore, hein, donc, puisque l'amour demeure, mais en même temps, il demeure inaccompli. Donc il y a à la fois une permanence et puis un inachèvement qui sont évoqués en même temps. Voilà. Donc on remet la question, on remet le débat au lecteur. Hein, mais il y a bel et bien débat. Hein. Et si on remonte un peu avant, on avait déjà la première des questions. Qui empêcha la nuit de s'épaissir entre les spasmes, d'envahir le silence? Donc là encore, une question est posée au lecteur, c'est à lui de donner la réponse. Hein, mais donc il y a aussi débat sur un actant. Hein, quel a été l'actant décisif? Hein. Et puis si on poursuit, on a encore une question. Les mains n'auront-elles servi qu'à essuyer le front, les joues à recouvrir le visage mortel, hein? Donc ici, une interro négative en ne que qui permet au locuteur de contester le point de vue, hein, selon lequel les mains n'auraient servi qu'à cela. Hein? L'interrogation ouvre, en fait, la négation en ne que fermer les possibilités. Le fait de le placer dans une interrogation... émet l'hypothèse qu'elles aient pu servir à autre chose. Hein. Et puis on a encore à nouveau le mais, hein, donc, qui en fait permet d'opposer, hein, le point de vue, disons, on pourrait dire le point de vue nihiliste ou le point de vue pessimiste, selon lesquels les mains n'auraient servi qu'à ça, et puis par ailleurs un point de vue qui serait plus ouvert, où l'espace est revenu laver l'espace. Et alors là, j'insiste sur un point qui me paraît très important, c'est qu'en fait, dans des poèmes qui sont pas toujours très 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 limpides du point de vue référentiel, c'est souvent justement les connecteurs, comme par exemple mais, ou les modalités comme l'interrogation ou la négation, qui vont nous mettre sur la voie du débat qui est à mon avis le cœur du poème. Hein. C'est-à-dire que si je vous dis comme ça hors contexte, bon, l'espace est revenu laver l'espace. Je pense qu'aussi bien vous que moi, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, hein, honnêtement. Bon. Mais quand on le voit inscrit dans une structure argumentative avec un « mais » qui précède et avant un « ne que », hein, on comprend qu'en fait, ce « mais l'espace est revenu laver l'espace », bon, c'est... Bon, alors, il y a aussi, évidemment, la connotation intrinsèquement positive dans nos cultures du verbe « laver », hein, qui implique une idée de purification, de renouvellement, etc. Hein, donc, le lexique joue aussi. Mais je crois quand même que le « mais » est un élément très puissant pour nous aider à interpréter le texte. Hein, c'est-à-dire à comprendre que dans ce texte qui nous décrit... une agonie, une mort, il y a en même temps autre chose qui se dit avec beaucoup de précaution, mais qui est malgré tout une vision moins désespérée que ce que pouvait laisser entendre le début du texte. Voilà. Alors, ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'il y a beaucoup de présupposés dans ce texte, hein, ce qu'on appelle donc les présupposés existentiels. Quand on nous parle, quand on nous dit les spasmes, le silence, hein, il n'a pas été question, alors là, vous êtes obligé de me croire sur parole, mais vous pourrez aller voir, il n'y a pas été question auparavant de ces éléments. Hein, dans la section précédente, il n'est pas question du tout ni des spasmes, ni du croisement des rides, ni du grattement des doigts, ni de la respiration, etc. Tous ces éléments sont donc, mais en même temps, ici, les articles définis, hein, les articles définis les posent comme déjà connus, comme faisant partie de la mémoire discursive du texte. Les spasmes, le silence, etc., la respiration, le front qu'il faut essuyer, le visage qu'il faut recouvrir. Hein. Et donc, ici, on a bien une physique du corps mourant, mais vous voyez que ce qui est en jeu, ce n'est pas de décrire une agonie, ce n'est pas ça qui est en jeu dans ce poème. Ce qui est important, c'est de discuter du sens qu'il faut donner à cette agonie. Hein? Et c'est pour ça que tous ces éléments sont présupposés, hein? Donc sont donnés comme appartenant à la mémoire discursive du texte, et que par contre, ce qui abonde, ce sont les interrogations, les négations, les mais, c'est-à-dire un débat argumentatif sur le sens à donner. Et ça, je pense que c'est très très souvent le cas en poésie, c'est-à-dire que peut-être que c'est peut-être pas l'idée commune quand on se fait la poésie, hein, souvent quand on a une idée un peu, enfin je ne pense pas que ce soit le cas pour vous, mais quand on parle avec des gens qui n'ont pas trop réfléchi, la poésie, voilà, c'est l'expression des sentiments, etc. Moi je pense que la poésie, très souvent, c'est un débat. C'est un espace de débat qui est ouvert. Et justement, la présupposition, qui est très fréquente en poésie, hein, les articles définis sont prédominent en poésie, ça a été observé par beaucoup de gens, sont souvent un moyen justement d'instaurer une série de référents qui sont donnés comme acquis, hein, et à partir de là, de discuter du sens que tout cela a. Hein. Un débat qui peut porter soit sur les conditions d'exercice de la parole, on sait que la poésie est très souvent réflexive, hein, elle réfléchit sur ses propres conditions d'énonciation, et puis aussi en même temps ou parallèlement, ou enfin ça dépend un peu des auteurs, un débat aussi sur l'histoire, sur le sens de l'existence, sur le devenir historique. Hein, bon, c'est vraiment ce qui me semble être souvent l'enjeu de la poésie. Hein. Non pas de faire partager une dimension empathique, mais de construire un débat, hein, sur le sens à donner aux événements ou à la prise de parole. Et donc, ce qui est important, c'est par des moyens linguistiques, hein, l'emploi des déterminants, l'emploi aussi parfois des tiroirs verbaux, etc., de créer une scénographie où le locuteur et le lecteur cohabitent dans un espace commun présupposé, hein, préexistant. Et ici, c'est bien le cas, hein, c'est-à-dire que le lecteur est vraiment présenté, enfin par les questions, comme contemporain de cette scène, hein, comme il y a insisté, il y a participé, et donc étant capable d'émettre sur elle un jugement. Voilà. Et à ce sujet, on peut observer, en ce qui concerne les temps, hein, que vous avez un va-et-vient entre passé et présent, et un jeu sur... Donc le phrase nominale d'abord, hein, donc qu'on va plutôt interpréter en référence à une situation d'énonciation. Ensuite, un passé simple, hein, qui a l'air de nous couper de la situation d'énonciation. Mais après, un présent, ne font pas un message, hein, présent qu'on pourrait interpréter comme de narration. Et puis après, un futur antérieur, de bilan. Hein, c'est-à-dire que le lecteur est déjà amené à avoir un regard rétrospectif. Et donc on a un va-et-vient entre des énoncés semblent remettre, si vous voulez, le moment de l'agonie comme présent, hein, et puis d'autres qui nous indiquent qu'ils sont déjà passés, alors en particulier les formes accomplies de la deuxième partie du poème. Hein, les mains auront-elles servi et l'espace est revenu laver l'espace. Hein, et donc le lecteur est invité à accomplir ce mouvement temporel, à se rendre tantôt présent par la mémoire à la scène qui lui est proposée, et puis tantôt à se mettre à distance et à l'évaluer, à la juger. Alors ce conflit des points de vue, j'avais commencé à m'y intéresser quand j'ai travaillé sur la poésie de Philippe Jacotet, parce que c'est particulièrement net dans la poésie de Philippe Jacotet, qui est vraiment tout entière traversée de ces interrogations, de ces questions, de ces débats. Hein. Bon, alors, c'est très net dans Chant d'en bas en particulier, que vous pouvez relire sous cet angle-là, ou à la lumière d'hiver. Hein. Et je crois que vraiment... Si vous vous intéressez à la poésie, si vous étudiez un livre de poèmes, je crois que regarder les énoncés niés, les négations, vous en dira beaucoup plus que beaucoup de paraphrases pas très heureuses sur tel et tel poème. Voilà, regardez les négations et vous verrez apparaître des points de vue. Vous verrez quel est le point de vue affirmé et quel est le point de vue combattu. Et vous commencerez peut-être à comprendre quel est l'enjeu, ce que j'appelle la visée argumentative du texte. Voilà. Alors, pour conclure et pour laisser un peu de temps à la discussion, évidemment, c'est un débat que j'ai avec d'autres personnes qui ne sont pas du tout d'accord, et donc on pourra peut-être en discuter. Envisager la poésie d'un point de vue énonciatif conduit à la lire comme une parole adressée. Hein? Voilà. Et ça peut se discuter. On peut dire, est-ce qu'on ne peut pas envisager qu'il n'y a pas d'adresse dans la poésie, que... On peut continuer à défendre une position de la clôture textuelle où le texte c'est le texte qui compte et c'est pas bon. Alors c'est un point effectivement de discussion. Hein. C'est vrai que adopter un point de vue énonciatif, c'est prendre tout discours, y compris le discours littéraire, avec toute la distance hein, qu'il faut établir, comme sur laquelle j'ai insisté, entre le locuteur et l'auteur, le sujet biographique, c'est quand même envisager tout discours comme adressé. C'est personnellement la position que je défends, parce que c'est aussi celle qui me donne envie de lire, hein, je dirais. Moi, j'ai envie de lire des choses si on s'adresse à moi, quoi. Voilà. Bon, mais ça se discute. Hein. Voilà. Alors, en tout cas, la fréquence des dispositifs d'allocution en poésie me semble quand même plaider pour une approche énonciative, parce que la poésie est vraiment est très, très marquée par des dispositifs, des apostrophes, des invocations, etc., qui semblent bien la placer sous justement l'invocation, la concevoir comme une parole adressée. Et du coup, je pense que le lecteur a une place importante dans le dispositif énonciatif des poèmes. Je dirais que lire de la poésie, c'est tour à tour adopter la posture du je ou du tu ou du vous, selon les poèmes, hein, prendre position dans un débat. Et par rapport à la narration, hein, je dirais que la poésie requiert un lecteur peut-être plus actif que dans la narration, parce qu'il ne lui suffit pas simplement d'écouter une histoire hein, ou de lire une histoire, mais il lui faut prendre parti, résoudre les incertitudes du texte, valider ou pas les choix qui lui sont proposés. Et c'est en ce sens que la poésie peut être perçue, ça a été dit par beaucoup, hein, comme une expérience. Une expérience qui est à la fois pour celui ou celle qui l'écrit, mais aussi pour celui ou celle qui la lit. Et une expérience donc dont l'enjeu, c'est de faire accéder à la parole un informulé et de reconfigurer le mondain. Et c'est pourquoi, alors dans le résumé que j'avais envoyé pour présenter cette conférence, j'évoquais entre autres les travaux que j'aime beaucoup par ailleurs de Marc Dominici, hein, sur la dimension évocatoire de la poésie. Je pense que ce sont vraiment des travaux, si vous ne les connaissez pas, que je vous invite à lire, parce qu'ils sont très intéressants sur ce qu'il appelle la modalité sémantique propre à la poésie. Mais je pense que en soulignant la dimension évocatoire de la poésie, avec des travaux minutieux sur les textes qui sont tout à fait convaincants, je pense malgré tout qu'il occulte un petit peu aussi quand même que le fait que ce qui se passe dans la poésie, c'est qu'il y a cette dimension évocatoire de réalités qui sont données comme déjà connues, hein, j'ai insisté déjà là-dessus, sur la mémoire discursive que la poésie mobilise, mais en même temps, je pense que l'enjeu, c'est aussi de renouveler ces entités. Et donc, je dirais que le travail de Marc Dominici est précieux, mais qui doit être, à mon avis, équilibré par aussi une attention à la façon dont ces évocations, qui sont données comme déjà dites, hein, sont en même temps renouvelées par une énonciation qui sollicite le lecteur et qui lui demande de prendre position par rapport aux choix qui lui sont proposés. Voilà, je vous remercie pour votre attention.